بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شافعي الاسلام par la grâce d'Allah azza wa jall nous avons lu ce soir la sourate al-ma'idah dans son intégralité. Hier, on avait lu donc la sourate An-Nisa. Il est resté un petit passage qui a été complété donc ce soir. Et à Al-Layla, on a donc lu la sourate Al-Ma'idah. Et la sourate Al-Ma'idah, comme la sourate An-Nisa, est une sourate Madaniya. C'est-à-dire que cette sourate a été révélée à Madina Munawwara. Ibn Kathir, rahimahullah, dans l'introduction de la sourate, cite trois narrations différentes dans lesquelles les sahaba témoignent qu'ils ont vu certains versets de la sourate Al-Ma'idah révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui se passait quand les versets étaient révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui se passait? Les versets, c'était un poids insupportable. Quand les versets étaient révélés sur le prophète alayhi salatu wa sallam, c'était quelque chose d'extrêmement lourd. Et parmi ces trois hadiths, on a celui de Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, قال Unzilat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam surat al-ma'idah wa huwa rakibun ala rahilatih falam tastati' an tahmilahu fanazala anha. Le prophète était sur sa monture et la sourate Al-Ma'idah a été révélée. Le poids était tellement important que la monture ne pouvait plus tenir sur ses pattes. Et vous connaissez la force d'un chameau? Vous connaissez la force d'un chameau? Qui est déjà monté sur un chameau? Mashallah. Qui a déjà mangé du chameau? Qui a déjà bu du lait de chamel? Moi aussi. Chameau, c'est un animal extrêmement strong, extrêmement fort. Et les pattes du chameau, c'est plus résistant que beaucoup d'autres animaux. Et la monture ne pouvait plus tenir le poids de la sourate Al-Ma'idah qui descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dû descendre de sa monture. On a également des mêmes versions. Là, on a pris une photo des hadiths, trois sahabas différents qui rapportent la même chose, que le prophète a dû descendre de sa monture tellement la sourate Al-Ma'idah, et quelle que soit la sourate, c'est le poids de la révélation. Ça rejoint le verset qu'on avait cité, yalou anzalna hadha al-Qur'an ala jabal. Si ce verset Qur'an était révélé sur une montagne, même une montagne n'aurait pas pu supporter le poids de kalamullah. La sourate Al-Ma'idah commence par bismillah ar-rahman ar-rahim, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. « Oh les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. » Là, on est dans un autre thème. Après le thème de « Iman bil Ghaib », fond l'invisible, après le thème de reconnaissance que le Coran, c'est « Hudan al-Muttaqin », que ça a été révélé par Allah, et le brassage des révélations des prophéties, après avoir vu des passages en rapport avec les liens entre les membres d'une même famille et le lien entre enfants et parents, ce qu'on a pu développer hier. Aujourd'hui, c'est une thématique totalement différente. Ça concerne les promesses, les engagements, ce qu'on appelle les mu'amala également. Les transactions, n'importe quelle parole qu'on a donnée à une personne, n'importe quelle promesse qu'on a fait, sans distinction de religion. Léon Fassin insiste sur le fait que lorsqu'Allah Azza wa Jal, et on verra le tafsir dans un instant, mais lorsqu'Allah Rabbul Izzah nous demande de respecter nos engagements, il n'y a pas de différence entre donner parole à un musulman ou à une personne qui n'est pas musulmane, qui ne croit pas en Dieu. À partir du moment où on a promis quelque chose, à partir du moment où on a emprunté de l'argent, à partir du moment où on a un contrat, où on a un engagement financier, moral ou autre, il est du devoir du croyant de s'acquitter de son devoir, de son engagement. Autrement, on serait pécheur, parce que l'honnêteté, quand on parle d'honnêteté, ce n'est pas orienté uniquement vers ceux qui ont iman. L'honnêteté, c'est une parole qui sort de toi. Et elle doit être pure, nette et parfaite, quel que soit le destinataire. Ya ayyuhalladhina amanu donc, awfu bil'uqud. Ibn Kathir, rahimahullah, on jongle en deux tafsirs, vous avez remarqué. On a préféré le tafsir d'As-Sa'di, rahimahullah, ce soir, qui est un peu plus percutant. Les versets sont un peu plus percutants de la façon qu'il explique, mais en même temps, Ibn Kathir apporte des choses que personne n'a. Ibn Kathir, par exemple, va nous dire, parce que c'est le premier sourate qu'on voit qui commence par « Ya ayyuhalladhina amanu ». on avait Al-Baqara, on avait Al-Imran, on avait Al-Nisa. Là, on a le premier verset, le premier sourate, pardon, qui commence par « Ya ayyuhal ladhina amanu » Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Kathir ? Ibn Kathir, le rapport de Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Kathir rapporte la citation de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit que lorsque, ô musulman, idha sami'at Allah, lorsque tu entends qu'Allah Azza wa Jal a révélé un verset qui commence par Ya ayyuhal ladhina amanu, far'iha sam'ak, fa'innahu khayrun ya'muru bih, ou sharrun yanha anhu. Écoute attentivement avec tes oreilles. Lorsque tu entends Ya ayyuhal ladhina amanu, sache qu'Allah est en train de te parler. Sache que ce message c'est pour toi. Et donc, ouvre ton cœur. Sois attentif avec tes oreilles, parce que c'est soit un ordre qu'Allah est en train de donner, donc empresse-toi à le mettre en application, ou alors Allah va parler d'un interdit, alors écoute et applique-toi pour éviter totalement la chose qui est haram, la chose qu'Allah Azza wa Jal a rendue illicite. Ya ayyuhal ladhina amanu, donc awfu bil uqud, remplissez fidèlement vos engagements. As-Sa'di rahimahullah explique hada amrun min Allah, c'est là l'ordre d'Allah Azza wa Jal, parce que cela fait partie de la foi, ce qu'on appelle al-wafa ou bil-ahd ou bil-uqud, comme on a dit en introduction, de respecter ses engagements bi-ikmaliha wa itmamiha wa admi naqdhiha wa naqsiha, en allant au bout de nos engagements, en les faisant correctement comme on avait promis, sans en diminuer des clauses ou en changeant les termes. Bien sûr, sans entente préalable avec l'autre personne. Si je m'engage avec le frère, on va faire tel projet, tu mets telle somme, je mets telle somme, il est de mon devoir d'aller au bout de mon engagement et je n'ai pas le droit de modifier le plan ou le statut ou le projet sans lui demander, bien sûr, son avis. D'un commun accord, c'est autre chose, mais autrement, on reste sur nos engagements. C'est ça aussi l'islam. Le fait de tenir parole. L'islam, ce n'est pas uniquement la pratique de la mosquée, ce n'est pas uniquement l'assiduité d'aller prier. Ça fait partie de notre dîn, bien sûr. Mais être musulman, être croyant, être mu'min, c'est également être honnête et respecter ses engagements et ses paroles. Et quand on a une transaction avec une personne, d'être honnête et de ne pas tromper la personne qui est en face. Ça, c'est clair. C'est un message qui est extrêmement important et qui trouve sa place à notre époque où les esprits, malheureusement, sont de plus en plus corrompus. As-Sa'di, rahimahullah, c'est pour ça qu'on dit As-Sa'di, il donne parfois, il fait des développements qu'on ne retrouve pas d'Ibn Kathir. Il dit, il y a trois catégories d'engagement. Bayna al-abdi wa bayna rabbihi. L'engagement entre le serviteur et son seigneur. Ça fait partie des engagements. Parce qu'on a fait la promesse à Allah Azza wa Jal de faire son adoration. Et donc, rester ferme dans les bonnes œuvres, ça c'est déjà un engagement. Tout comme lorsque je dis Allahumma inni asumu ghadan laka, on fait l'intention de jeûner, je respecte mon engagement pour cette journée jusqu'au soir de ne pas manger, de ne pas boire. Tout ce qu'on a promis, on le respecte jusqu'au soir. Il en est de même pour l'intégralité des actes d'adoration. Deuxième catégorie d'engagement, wallati baynahu wa bayna ar-rasoul, l'engagement qu'il y a entre le mu'min, le musulman et son prophète. Et quel est notre engagement envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? En un mot, le mot en arabe s'il vous plaît. Oui, j'ai entendu là-bas. Ittiba', yuna. L'obéissance et le prendre comme modèle et mettre sa sunna en application et respecter son enseignement. Ça fait deux. Troisième catégorie, wallati baynahu wa bayna al-walidayn wal-aqarib. On revient sur le thème de hier. Les engagements qu'il y a entre un individu et ses proches. Et As-Sa'di commence par wal-walidayn. L'engagement d'un fils à l'attention de son père, à l'attention envers sa maman et d'une façon générale envers les membres de sa famille. Ça aussi, ça fait partie des uqud, des engagements. Et le croyant se doit d'être réglo, de faire tout ce qu'il peut pour respecter ses liens, donc avec les parents et les membres de sa famille. Ça fait trois, il me semble. Quatrièmement, وَالَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ, et on enchaîne avec le dernier, وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ, le droit des croyants, des musulmans d'une façon générale, entre autres, parmi ces droits, parmi les droits de notre frère, le fait de respecter ce qu'Allah nous a révélé, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى, que les musulmans sont frères. Et quand on sait que, comment tu t'appelles toi? Mohamed Ali. Muhammad Ali, c'est mon frère, je n'ai donc pas le droit de l'insulter, je n'ai pas le droit de faire la médisance, je n'ai pas le droit de le tromper, de lui faire du tort, et ainsi de suite. Tout comme, voilà, comme si c'était mon frère de sang. Vous allez dire que de nos jours, même entre frères de sang, on se tient dans les pattes, mais malheureusement, il ne faut pas tirer vers le bas, mais plutôt vers le haut. On doit avoir une muhabba et un engagement moral. Et un respect de notre frère en islam, comme si c'était un membre de notre propre famille. Ça fait partie des engagements du début de la sourate Al-Ma'ida. Et wallati baynahu wa bayna al-haq wa bayna al-khalqi min 'uqud al-mu'amalat kal-bay'i wal-ijara. Et enfin, les engagements avec n'importe quelle personne, j'allais dire même n'importe quel citoyen, c'est-à-dire la personne qui habite à ta cité, concernant les transactions commerciales et les mu'amalat, la location, ainsi de suite. Respecter les clauses, ça fait partie de la foi. Hada. Ensuite, Allah Azza wa Jal va parler de toute autre chose. Là, on a fini avec les engagements, on va parler du halal, ce qu'on consomme. Et ça, c'est un point extrêmement important. L'acceptation des actions dépend, entre autres, de la nourriture qu'on consomme. Uhillat lakum bahimatul an'ami. Vous voyez comment est-ce que les thèmes du Coran sont, subhanallah, divers. Et tout ça, ça nous enrichit. Uhillat lakum bahimatul an'ami. Vous est permise la bête du cheptel. Illa ma yutla alaykum ghayra muhilli as-saydi wa antum hurum. Sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Inna Allah yahkumu ma yurid. Allah, en vérité, ne décide de ce qu'il veut. As-Sa'di rahimahullah dit que uhillat lakum, c'est-à-dire li ajlikum, par clémence envers nous, Allah a rendu halal, a rendu licite la viande de bœuf, le cabri, enfin le bétail, d'une façon générale, illa ma yutla alaykum, avec quelques exceptions, et ces exceptions-là ont été citées, ont été lues, pardon, dans au milieu de la sourate Al-Ma'idah, hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bi, les animaux qui sont interdits, bien sûr, il y a le porc, ça c'est très clair, mais également les cadavres d'animaux, également les animaux qui sont morts sans avoir été sacrifié, sans qu'il y ait le sang qui est sorti des veines jugulaires, comme l'animal qui a été étouffé, ou l'animal qui est mort d'un coup sur la tête, et ainsi de suite. Tout ce qui est cité dans la surat Al-Ma'idah, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal annonce que ça c'est halal, à l'exception de ce qui va être énoncé. Illa ma yutla alaykum. Ghayra muhill as-sayd wa antum hurum également, lorsqu'on est en état de ihram, de sacralisation, là aussi on n'a pas le droit de chasser, pas de manger, hein, on n'a pas le droit de chasser. Inna Allah yahkum ma yurid, ça on ne développe pas parce que ce n'est plus vraiment d'actualité, la chasse c'est quelque chose qui est terminé, on n'est plus à cette époque. Maintenant ça ne veut pas dire que quand on est en état de ihram, on ne peut pas manger de la viande, non. Si je suis en état de ihram, je vais à Mecca, j'ai le droit de manger du bœuf, du cabri, du poulet, il n'y a pas de souci. C'est pas le fait de manger de la viande qui pose problème, c'est de chasser. Et également, lorsqu'on est dans l'enceinte de la terre sacrée, de haram, là aussi, on ne chasse pas. Mais ça, on ne va pas développer, parce que ce sont des pratiques qui n'existent plus. Inna Allah yahkum ma yurid. Donc, Allah, en vérité, décide de ce qu'il veut. Et As-Sa'di dit, فَمَهْمَا أَرَادَهُ تَعَالَى فَهُوَ حَكِيمٌ. Lorsqu'Allah prend une décision, on doit être persuadé, avoir la conviction que cela émane de sa sagesse. Et tout ce qu'Allah légifère pour cette umma, il y a un grand khair, il y a un grand bien. Maintenant, si on pose une question scientifique, est-ce qu'il est mauvais de manger une viande non saignée? Ils vont vous dire oui, c'est mauvais pour la santé. Si on veut reprendre les exemples, enfin, ce qui a été cité, une viande, c'est quoi une viande qui n'a pas été saignée? C'est un animal qu'on n'a pas sacrifié, qui est mort d'une autre façon, je ne sais pas comment, mais le sang, le dam masfour, le sang qui normalement sort au moment du sacrifice, ce sang-là, c'est impur, ça. Ça, c'est un sang qui est impur. Si ça ne sort pas, ce sang reste dans le corps et cette chair, elle est mauvaise pour la santé. Cette chair, elle est mauvaise pour la santé. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de Masa'il. Il y a des gens parfois qui demandent, mais est-ce que, enfin, je ne sais pas si c'est le bon moment d'en parler, est-ce qu'on a le droit donc de manger un steak saignant? Oui, on a le droit. Peut-être pas très bon pour la santé, parce que bactéries, surtout avec ce qu'ils injectent au bœuf et ainsi de suite, Allah Musta'an, avec les antibiotiques qu'ils donnent, je ne sais même pas est-ce qu'il y a une viande qui est encore consommable ou non. Hein, vaut mieux, tu connais un petit éleveur là-bas, tu coupes tes animaux toi-même, parce que la viande, elle est sale, le lait, c'est presque un poison, et ainsi de suite. Qu'on entend parfois dans les revues scientifiques qui disent que le lait est mauvais pour la santé, moi je ne suis pas d'accord. Le lait n'est pas mauvais pour la santé. Allah a créé ça pour que l'homme puisse en boire. C'est ce qu'on a injecté dans les animaux rend le lait mauvais pour la santé. Tous les antibiotiques. Si vous analysez n'importe quel morceau de viande que vous achetez chez votre boucher, vous allez certainement trouver des traces d'antibiotiques dedans. Donc voilà, c'est pas l'animal qui est mauvais, parce que Allah les a créés pour nous, pour qu'on mange. Donc c'est pas mauvais pour la santé. Le lait Allah a créé pour nous, pour qu'on puisse boire, c'est pas possible, on n'a pas le droit de dire que c'est mauvais pour la santé. C'est le traitement que les hommes ont fait, le fait qu'ils aient abusé sur ces bienfaits pour en avoir plus, pour produire plus. C'est ça qui fait que ça a altéré la qualité. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Donc l'histoire du steak saignant. Ça vous dit un steak saignant en plein Ramadan? Non, on n'a pas trop l'appétit pour ce genre de choses. Le sang qui est dans la viande, c'est halal, c'est licite. Le sang qui est interdit, c'est le dam masfour. C'est le sang qui sort de l'animal lorsqu'on le sacrifie. Maintenant, si vous coupez votre steak, il y a un peu de sang qui sort, ne vous inquiétez pas, vous pouvez manger. Maintenant, si vous avez des tendances de vampire, tant mieux pour vous. Moi, je ne mangerai jamais un truc comme ça. Inna Allah yahkumu ma yurid. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Je veux juste attirer votre attention sur un passage. On n'est plus collé avec le début de Surat Al-Ma'ida, mais il y a un verset. Wala yajrimannakum, si je le retrouve, bismillah. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum. Il est là. Anil masjidil haram yan ta'tadu. Et ça, c'est un verset extrêmement important, surtout à notre époque, de cette époque de trouble. Écoutez le verset et l'explication, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors, je vais la traduction. Bismillah, wala yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée vous inciter à transgresser. Ça veut dire quoi, ça? Ça nous ramène vers un épisode de l'histoire, si je ne me trompe pas, en l'an 6 de l'Hégire, à Hudaybiyah, le sulh de Hudaybiyah. Parmi les clauses du traité de Hudaybiyah, il y avait le fait que les musulmans ne pouvaient pas entrer à Makkah cette année. Ils devaient revenir l'année prochaine. Et c'était quelque chose qui était difficilement acceptable par les musulmans. Parce qu'ils avaient quitté Madina, ils étaient en état de sacralisation de l'Ihram, ils attendaient, ça fait plus de 6 ans, qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de revoir la Kaaba, de faire le tawaf. Et les gens de Makka, ça, qu'on le retienne jusqu'à notre époque, jusqu'à l'époque actuelle, les gens de Makka restent profondément attachés à la ville de Makka. Ils sont liés à cette ville. Et donc, les sahaba aimaient Mecca et ils étaient arrivés aux portes de la Mecque. Et c'était par méchanceté uniquement que les Mécois ont refusé l'accès. Le Prophète a accepté toutes les clauses d'un pacte qui était en apparence totalement injuste et déséquilibré. Mais il y avait une garantie de 10 ans de paix. 10 ans, il n'y aurait plus eu de guerre. Et le Prophète a favorisé, a mis en avant le fait que enfin, ils vivraient en paix et qu'il n'y aurait plus de guerre. Et ça, c'est un message également pour ceux qui disent que l'islam, c'est une question de guerre, c'est de djihad. Quand on leur a proposé la paix, alors que de l'autre côté, il y avait des clauses injustes, le prophète, alayhi salatu wassalam, a accepté parce que cela allait permettre aux musulmans de vivre enfin en toute tranquillité et de propager le din et d'envoyer des émissaires dans différents pays pour installer et propager la religion, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient sur leur garde. À n'importe quel instant, les Quraysh pouvaient envahir Madina, pouvaient lever une armée ou contacter des hypocrites pour qu'ils se soulèvent contre les musulmans. C'était donc une situation inviable. Ibn Kathir, rahimahullah, explique que donc, après avoir signé ce sulh de Hudaybiyah, les musulmans étaient près de Mecca et ils allaient quitter. Et ils voient une caravane qui s'approche. Des polythéistes qui allaient entrer à Mecca et ces personnes-là ont eu l'autorisation d'entrer de la ville sainte de Mecca. Certains sahaba n'acceptaient pas cette situation. Ils disent, comment est-ce que nous sommes Makki, nous sommes originaires de Mecca, on n'a pas le droit d'entrer dans notre ville. Et ces personnes-là, on les laisse accéder parce que nous sommes musulmans, on nous a empêchés d'entrer. Ils ont ressenti ce voulme. Et certains voulaient se venger sur ce groupe qui allait entrer. Certains voulaient arrêter ce groupe pour qu'eux aussi ne passent pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a interdit de le faire. Et le wahi est venu pour interdire aux croyants et pour leur rappeler que ce n'est pas parce que vous avez eu on va dire, une divergence où il y a eu une friction avec des gens, que vous allez vous venger sur d'autres personnes. Les Quraysh vous ont été dit, ça c'est terminé. Ces gens-là, certes, ils sont de la même religion que les Quraysh, mais eux, ils ne vous ont rien fait. Donc, ne faites rien à ces gens, ne les empêchez pas de passer, faites preuve de patience, c'est ainsi la décision d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on retient par analogie par rapport à cet événement? Lorsqu'il y a, qu'Allah nous protège, et protège nos enfants, et protège notre pays. Lorsque vous voyez une personne, vous entendez dans les infos, qu'une personne a décidé de tuer quelqu'un, en plein centre-ville, en plein Paris, à New York, à Londres, ou ainsi de suite, il a tué un policier, a tué telle personne, parce qu'il voulait venger le sang de ses frères en Palestine ou en Syrie. Est-ce que c'est cohérent? Ou il n'y a aucune cohérence? Il n'y a aucune cohérence. Et cet événement à Hudaybiyah, c'est par qiyas, à partir de cet événement, on comprend, on peut extraire le masla, que l'ennemi, c'était qui? C'était les Quraysh. C'était eux les ennemis. C'était eux qui avaient été injustes. C'était eux qui ont empêché les musulmans d'entrer. Le prophète a accepté les clauses, il devait s'en aller. Maintenant, cette caravane qui arrive, eux, ils ne vous ont rien fait. C'est-à-dire que se venger sur une personne qui ne vous a pas fait du tort parce qu'elle a la même appartenance religieuse, c'est haram. Le prophète a interdit aux sahaba de bouger, de toucher à ces gens, et Allah a révélé un verset pour rappeler que ces gens, que la haine que vous avez contre ce peuple ne doit pas vous pousser à une injustice, à mal agir envers d'autres personnes. On relit une fois la traduction pour bien le fixer et comprendre mieux maintenant. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué, c'est-à-dire qui vous a empêché d'accéder à la mosquée sacrée. Cette frustration que vous avez, ça ne doit pas vous inciter à transgresser, à accomplir quelque chose qui est injuste. Et la conclusion, c'est wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez pas de le péché et la transgression. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire de bien, on doit le faire et on doit aider notre prochain à avancer dans le droit chemin. Mais quand il y a quelque chose de mauvais, on ne doit pas le faire nous-mêmes et on ne doit surtout pas aider une personne à mal agir. Et bien au contraire, on doit l'aider en l'enlevant du mauvais chemin. Pour ça, on avait dit « Unsur akhaka zaliman aw madhluma ». Aide ton frère, qu'il soit opprimé ou qu'il soit oppresseur. Sahaba n'avait pas compris. Il dit à Rasulallah, Sahaba posait des questions. Il voulait comprendre. Il dit à Rasulallah, qu'on aide notre frère qui est opprimé, ça on a compris. Mais comment l'aider quand il est oppresseur? Il dit que quand il est oppresseur, c'est-à-dire, il fait du zulm à lui-même, en désobéissant à Allah, ou en faisant du tort à son prochain. C'était une expression du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un oppresseur, c'est-à-dire, il se fait du tort à lui-même. En faisant du mal aux gens ou en accomplissant des péchés, comment l'aider? En l'empêchant, en tenant sa main, en lui rappelant que cette chose est interdite, bref, lui venir en aide et ne pas le laisser dans cet égarement. Et Allah conclut par Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab, et craignez Allah car Allah est certes dur en punition. Et As-Sa'di dit Fahdharu al-maharim, éloignez-vous totalement de tout ce qu'Allah a rendu haram afin que nous n'ayons pas à en payer dans ce dunya ou dans le akhira. Qu'Allah Azza wa Jalla donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, ces quelques versets de la sourate Al-Ma'ida. Qu'Allah nous accorde l'honnêteté qui doit être une qualité intrinsèque et propre aux croyants, que lorsqu'on a une transaction, un engagement, ou lorsque je vous dis un truc tout simple, hein, vous avez demandé à un artisan de venir peindre votre portail, ou de venir changer, je ne sais pas, vos fenêtres, ou vos baies vitrées, aluminium, ainsi de suite. Lorsque cette personne, si vous êtes mis d'accord, déjà, il faut se mettre d'accord sur le prix avant le travail. Attention à ces personnes qui viennent, qui disent que, non, mais fais après tu vas voir ce que tu veux me donner. Ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est haram, ça. Quelqu'un qui te propose un service dit, je fais, et après, on verra ensemble. Non! Il faut, avant que le travail commence, on est fixé combien de temps ça va te prendre, quel effort, ça nécessite quel matériel, quel matériau, et ainsi de suite. Et on évalue et on fixe le montant au début. Première règle. Deuxièmement, le temps qu'on lui a accordé, qu'on s'est promis, si on lui a dit qu'il commence à travailler de 8h jusqu'à midi, il ne faut pas 6h30, tu ne l'as pas dit, écoute, tout compte, viens tout de suite, j'ai besoin de toi. Ça, c'est haram aussi. On s'est engagé pour 3h, pour 4h, On ne lui fait pas travailler en plus, à moins qu'il y ait un surplus de salaire. Et troisièmement, lorsque le travail est terminé, le prophète Ali salatu wasalam a dit, A'tul ajira ajrahu, donnez au travailleur, à l'employé son salaire avant que la sueur ne sèche de son front. Personne n'a, il a peint le mur de toute ta maison. 2 jours, miskin. Sous gros soleil, en plein été, il n'y avait pas de clim chez toi. Transpire, il a fini. Il a terminé, dit patron, voilà, c'est terminé. Tu dis, ah, on a fini déjà. Ben, passe voir moi demain. Demain, reviens, ma payaou. Haram, Allah. Haram, alaik. Haram. Et certains savants disent même, si un ouvrier, un artisan, il a fait un travail pour vous, il a terminé un samedi, vous n'avez pas le droit de lui payer par chèque un samedi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce morceau de papier ? Quand il n'y a pas la possibilité de jouir immédiatement de cet argent, enfin, ils ne nous ont pas dit que c'est haram, mais c'est vivement déconseillé. Le but, c'est quoi ? C'est que la personne qui a travaillé, elle obtient son dû immédiatement. Tout ça, ça fait partie des qualités du croyant, du mu'min, qu'Allah nous accorde ces qualités, en plus de la piété, l'honnêteté et la bienveillance envers notre prochain. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, alhamdulillah.